Elle hésite. Elle ne sait plus. Pas. Elle hésite. Elle ne sait plus. Pas. Exister. Verbe intransitif. 1. Dans la vie, vivre. 2. Être dans la réalité. Se trouver quelque part. Être repérable dans le temps ou dans l'espace. Elle n'existe pas vraiment. Pas vraiment veut dire qu'elle est ectoplasme. Elle déplace une enveloppe fissurée, squelette brumeux, sans rien faire trembler. Sans rien faire trembler veut dire qu'elle hypoventile. Elle expire un peu d'air au travers de lèvres gercées par la froidure de l'été. La froidure de l'été veut dire que les saisons glissent sur elle sans compter. Alors, elle sectionne le tronc du squelette brume pour y compter 9 cernes. 9 cernes veut dire 9 cercles concentriques autour d'une taille desséchée, veut dire 9 anneaux de croissance, veut dire 9 ans. Elle rassemble 9 années d'une ossature parsemée. Parsemée veut dire carcasse, veut dire patchwork, rapiécé de multiples chutes. Chute veut dire chute de tissu, chute libre, chute de tension, chute dans l'escalier, chute de cheveux et silence. Elle vient tout juste d'avoir 9 ans. 9 ans veut dire cruauté dépecée par des petites mains d'enfant. Elle n'existe pas vraiment. Elle a existé, passé composé. Oui, un jour, elle a existé. Un jour, elle a existé veut dire décomposée, veut dire maintenant, elle n'existe pas vraiment. Elle ne laisse pas d'empreinte de pied dans la terre meuble ou le goudron cuisant, ni ne fait grincer les cailloux, crisser la neige ou contourner le vent. Elle ne laisse aucune odeur dans la pile sale de vêtements en polystère et presque aucune trace sur les murs de la maison en placo gris peint en blanc. Les engrammes des grandes personnes, ceux qui babillent dans le plein du monde, sculptent des souvenirs de « elle » pour la faire exister, alors « elle » se négative. Elle, petite carcasse laiteuse sur papier photo brillant 10 par 15 punaisé au placo gris peint en blanc, 1, 2, 3, souriez. 1, 2, 3, souriez veut dire « elle » se rétracte, se compresse dans une tête d'épingle prête à disparaître. Elle, minuscule carcasse laiteuse d'un lait qui a tourné, tourné sur lui-même. Elle s'enroule sur elle-même. Cette contorsion porte le nom de courbure à spirale. Courbure à spirale veut dire visage aspiré par le noir d'un nombril asséché et puant. Le tracé d'une courbure à spirale nécessite l'usage d'un crayon graphique 9H. H dans 9H veut dire hard, veut dire crayon à mine dure pour des traits fins gris clair, veut dire enfumer le papier. Le tracé d'une courbure à spirale nécessite l'absence de lignes droites, parallèles, perpendiculaires, séquentes, polylignes, horizontales, verticales, obliques, asymptotes, pour que jamais la tête d'épingle de L ne se fracture contre un contour compact. Elle est une courbure en pointillé tirée de 0,1 point par 0,1 point. Tirée de 0,1 point par 0,1 point veut dire alternance de plein et de vide. Veut dire conversion, 0,1 point environ égal à 0,003528 cm. Elle n'en peut plus de se voir clouer les bras en croix sur les murs mous de la maison. Elle n'y reste jamais bien longtemps pour ne pas vraiment exister. La nuit, au creux des souffles allongés de fatigue, 10 petits ongles coupés ras, fourmis et grattent tout ce qui était hier. Par érosion, elle déracine hier imprimé sur papier brillant 10 par 15 pour ne pas vraiment exister. Sans rien dire, elle arrache un peu de vide au vide. Sans rien dire veut dire qu'elle ne parle pas. Sans rien dire, elle décroche la maison pour ne pas dire sa maison. Sa maison veut dire qu'elle aime sa maison, car oui, elle l'aime et il ne faut pas, seule la fuite sauve. Elle se creuse un peu plus chaque jour qu'elle franchit le seuil du portail métallique vert, couleur forêt épineuse. Aggloméré des lettres jaunes forme le mot « école ». École sur les grilles cernant une cour bétonnée, cernant une classe gravée de couleurs vibrantes et de tableaux noirs charbon. Le mot « école » veut dire faire son cartable. Dans son cartable, le soir, elle y range des silences, des bleus jaunes et des mots pavés. Elle est un ballon de plastique. Ballon, non masculin, jouet d'enfant formé d'une pellicule de caoutchouc très mince gonflée de gaz. Elle est un ballon de plastique qu'on dégonfle par à-coup. Par à-coup veut dire punching ball. Punching ball veut dire sac de frappe. Elle n'existe pas vraiment. Ici, elle n'a pas vraiment de prénom. Alors jamais elle ne murmure « je ». Alors, quelquefois, ils disent « elle ». Ils disent « elle » veut dire qu'elle ne translucide pas assez fort, veut dire qu'elle ne fuit pas assez vite. Elle est lente et lourde à force d'éponger le temps qui passe sans jamais s'altérer. Elle a dans l'estomac le poids compact de la peur qui s'agrippe. La peur la déborde tant la carcasse est saturée de vide. Elle ne peut rien faire d'autre qu'attendre, car aucune promesse n'atteindra l'aube. Elle attend. Elle attend que la vie séisme. Tout tremble, mais rien ne bouge. Elle ne parle pas. Elle a parlé, passé, composé. Oui, un jour, elle a parlé. Un jour, elle a parlé veut dire arrondir les angles pour les grandes personnes, veut dire décomposer les phrases, les mots, les syllabes, les sons, veut dire en décomposition la langue. Une langue fondue dans le palais n'est plus une langue, alors elle ne parle pas. Des dents d'un lait tourné tombent plus subitement. La mâchoire en devient aride et plus rien n'y pousse. Une mâchoire sans langue ni dents n'est qu'un trou. Un trou qui tombe dans la gorge sans voix, alors elle ne parle pas. Quelques cils frémissent, sans un bruit pour balbutier, tout va bien. Tout va bien veut dire rien ne va. Veut dire envelopper la peau d'un linceul pour que le silence s'impose. Ballon évidé, elle est une poche, un sac d'os. Elle revêt une peau lisse qui n'est pas la sienne. Elle étire une peau qu'elle épingle sur un fémur, un crâne, des phalanges et une colonne vertébrale. Au coucher, elle arrache cette peau qui n'est pas la sienne et le sac n'est plus un sac, alors tout s'effondre. Alors, elle rassemble. Et elle récure, eau de javel non diluée, les coups de soleil appartenant au jour bleu.
Il aura fallu attendre 5 ans pour que tu commettes l'impensable. Entrer à nouveau dans le Leclerc de Brest-Gouesnou. 5 ans depuis ta promesse de ne jamais y refoutre un pied. 5 ans depuis ton licenciement. Tu ne veux pas rentrer seul. Alors je suis là. Ton regard saute de caisse en caisse. Ta main se serre autour de la mienne. Tu cherches à esquiver les vieux visages familiers. Ah, j'ai croisé ta sœur chez Leclerc. J'ai croisé Monique, j'ai croisé Sylvie. Tu veux à tout prix ne pas entendre une phrase du genre. On s'assoit sur un banc, à l'extrémité du magasin, dos à tout le monde. On attend un peu. Personne ne t'a reconnu. Ta sœur nous a rejoint à sa pause pour prendre les billets avec toi, à l'agence Leclerc Voyage. C'était l'occasion de profiter de la réduction, puisque elle, contrairement à toi, n'a jamais cessé de bosser chez Leclerc. C'était la première fois qu'on envisageait de partir en vacances plus loin qu'en Bretagne. J'ai compris plus tard ton malaise ce jour-là, comment tu n'as jamais cessé de tout faire pour ne pas sacrifier les vacances d'été, et cela même si ça voulait dire retourner chez Leclerc. La mer s'étend de tous les côtés. Avec mes cousins, dans une sorte de cafétéria au milieu de l'Atlantique, on mange des frites devant l'horizon, la grande ligne de rien. La traversée dure 2 jours. Il semble qu'on est les seuls enfants du bateau. On s'ennuie. On regarde la piscine qui tangue plutôt que la mer. On se parfume gratuitement au duty-free plusieurs fois par jour. Parfois, le roulis du bateau manque de nous faire tomber, ce qui nous fait rire les premières fois. Malade, tu restes dans la cabine toute la traversée. Arrivé en Espagne, aucun de nous ne parle un mot d'espagnol, à peine anglais. On loge dans un grand hôtel à côté d'une plage bondée. On dit la suite plutôt que dire la chambre d'hôtel. On n'en revient pas que le petit déjeuner puisse être à volonté, alors on se goinfre et on vole des pains au chocolat pour le reste de la journée. À la plage, ta peau presque mate sur la serviette, elle, ne touche que le soleil, jamais le sable ou l'eau. Tu dis que c'est en raison de ta hanche, que si tu venais à marcher trop longtemps sur du sable, ça pourrait mettre en péril ta prothèse de hanche. Je retenais mon souffle. J'avais peur qu'elle se disloque juste avant d'arriver à l'emplacement parfait où poser nos serviettes. Et si tu n'allais jamais dans l'eau, c'est qu'elle était toujours trop froide, même en Espagne. On visite la ville sous une chaleur nouvelle, on fait du shopping. Tu as du mal à marcher, mais tu ne dis rien, tu m'achètes des habits pour la rentrée. Tu pourras dire qu'elles viennent de loin, tes fringues. C'est ma première fois si loin de Brest, quelques jours qui passent comme un rêve sans épaisseur. On repart. On arrive au poste de contrôle de la douane avant l'embarquement retour. Tu me dis à voix basse « Merde, j'ai gardé la drogue ». Tu te mets à paniquer. La file d'attente de la douane n'est pas très longue. Tu me glisses un sachet dans la main. Tu me dis « Cache-le, fous-le dans ton slip, ils vont pas te fouiller, toi ». Je le garde dans ma main fermement, un peu sonné. Les fils se divisent en deux. Je suis tellement énervé contre toi à ce moment, mais j'essaye de rester calme. Je pense à te dénoncer. L'agent me parle en espagnol, je ne comprends rien. Je serre le poing, je ne dis rien. Tu es déjà passé. Tu es de l'autre côté du poste. Je lui tends mon visage pâle, tremblant. « Show me your ID, please. » Il tapote sur sa vitre en pointant ma main. L'autre main, yes. Je tends la carte bleue plastifiée avec ma tête toute ronde dessus. On se regarde, il me laisse passer. Tu avais préparé ton coup depuis un bon moment. Ma main est toute humide dans ma poche. L'odeur arrive, jasmin. L'étiquette du sachet de thé trempé par ma transpiration porte le sigle de l'hôtel. Tu te fous de ma gueule, tu rigoles si fort que tu te pisses presque dessus.
Air à la fois visque et humide. Ma roue, avec une grande fenêtre. Les particules safranées. Au bout du couloir, les jambes nues, en diagonale contre le mur. Personne sur le plancher. Personne dans la cour. Lumière turquoise, les limaces rampent sur le plafond, des bourdons de gelée bleue une fois écrasés. Mes jambes s'engourdissent. Il y a une limace dans mon lit.
J'ai avalé sa haine toute crue. J'ai avalé sa malédiction. Elle hurlait, j'entendais sa voix hurler, j'entendais qu'elle faisait des tours sur elle-même. J'entendais qu'elle, à l'autre bout du fil, à l'autre bout du monde, me maudissait, je crois. Je crois que c'est ce qu'elle faisait. Elle a dit « Je t'appelle ». Elle a dit « Je t'appelle parce que tu as craché sur mon nom. » Elle a dit « Tu as craché sur ma lignée, sur mes ancêtres. » Elle a dit ces choses et j'ai cru qu'elle allait me donner rendez-vous dans une plaine. Me demander en duel à l'aube et tirer. Au premier sang, j'ai cru, mais je me suis rappelé qu'elle habitait à New York et la plaine entre nous, l'Atlantique. Alors j'ai avalé sa haine toute crue. Elle croyait que je trahissais son nom. Elle croyait que je lui lançais un sort. Elle croyait que j'étais une sorcière. Elle a dit que j'étais égoïste et mauvaise. Elle a presque dit que je l'avais violée avec mes mots. J'ai écouté et continué de parler. J'ai dit « je t'aime ». J'ai dit « je t'aime ». J'ai dit « je t'aime ». J'ai dit que j'étais désolée. J'ai dit que j'étais désolée. Je me suis faite avaler dans sa fange sans me débattre pendant qu'elle me gavait la bouche avec le cru rouge de ses mots. Ce n'est qu'une gamine, qu'une toute jeune adulte qui peine à trouver son sens. Ce n'est qu'une gamine, qu'une toute jeune adulte qui peine et pourtant elle a hurlé au bout du fil, elle a dit des pires choses qu'on m'a dites jamais. Elle m'a jetée dans sa gueule et a mâché ma peau pendant qu'elle hurlait et que je ne savais pas quoi dire et elle m'a, je crois, maudite, oui, maudite. J'ai subi, j'ai attendu. Pourquoi je suis restée? C'était si simple d'arrêter, si simple de raccrocher. Un bouton rouge et sa voix aurait disparu dans la scène, là, devant, tout de suite, stop. Je suis restée. J'ai écouté pendant qu'elle essorait mon cœur qui se retournait sur lui-même. J'ai avalé sa haine. J'ai été l'adulte, celle qui apaise, qui calme, qui dit ça va aller, qui dit c'est fini, qui dit calmons-nous, qui dit tu as raison, qui dit oui bien sûr, qui dit d'accord, qui dit désolé. J'ai joué à son jeu grimé en enfance et pourtant, elle a déjà 22 ans à ce moment-là. Je pense, est-ce qu'il y a un âge où on apprend à devenir adulte? J'ai avalé sa haine toute crue. J'ai mâché maudite en riant. J'ai mâché maudite du bout de viande qui ne se dissèque pas dans la bouche et devient plus dure à chaque coup de dent, qui assèche la bouche, qui évide les papilles de leur jouissance, qui grise la langue et même les lèvres. J'ai avalé sans eau. J'ai avalé sa haine toute crue. J'ai mal digéré. Il y a eu les nuits agitées, il y a eu les crampes. Malédiction a grandi, les tissus de chair se sont agglomérés entre eux. J'ai senti les entrailles qui s'en mêlaient, malédiction qui grouillait, ripait contre les parois du corps, dedans qui grinçait contre mes chairs, contre moi. Il y a eu les saignements. J'ai avalé sa haine toute crue. Je l'ai mâchée trop longtemps et un jour, malédiction s'est décrochée. Au fond de mon utérus, j'ai senti, dans un spasme, malédiction se détacher comme la maille d'un pull qui lâche, glisser dedans. Elle est tombée dans les toilettes, elle est tombée dans un bruit sec, elle est tombée au fond, elle n'a pas coloré l'eau claire. Elle n'a pas glissé le long de la paroi blanche, elle n'a pas laissé de traînée rouge. Elle a juste coulé sur elle-même et m'a attendue là, au fond de la cuvette. Je l'ai prise entre mes mains. J'ai déplié son tissu de haine rouge et plasma. Au premier sang, j'avais dit. Je l'ai prise en photo. Je l'ai redéposée dans l'eau, repliée en son propre linceul gluant, et j'ai tiré la chasse. J'ai avalé sa haine toute crue. Devenue viande, je l'ai mâchée. Je l'ai recrachée au premier sang.
À quoi ressemblerait le produit intérieur brut si on le croisait dans la rue? Quel bruit ça fait quand on transfère 34 millions vers Hong Kong? Est-ce qu'on peut prendre par le col une entreprise? Que dirait-elle allongée sur un divan? Que se passe-t-il si on lui fait manger des crevettes avariées? Quelle serait la couleur de son vomi? Combien de piscines remplit-on avec 1 milliard? Lors d'un crash boursier, est-ce qu'une étoile meurt? Si les entreprises votaient, est-ce que le RN serait toujours en tête? Est-ce qu'une société écran est comme un souvenir écran? Elle cache nos virements refoulés. Y a-t-il plus de sociétés décédées sur Terre que d'êtres humains décédés sur Terre? Quelle est l'espérance de vie d'une pièce d'un euro, d'un billet de 500 euros? Est-ce que c'est plutôt une vie de chat, de chien, d'oiseaux ou de tortues? Combien de billets peut-on ingérer sans inconvénient digestif? Un trader religieux a-t-il plus de valeur qu'un trader athée? Un millionnaire utilise-t-il des sacs plastiques? Un millionnaire utilise-t-il des cotons-tiges? Un millionnaire se coupe-t-il les ongles de pied lui-même? Sa flore intestinale est-elle aussi très très riche? Ses globules rouges sont-ils plus gros que les nôtres? Quand on cherche un travail, faut-il éliminer la concurrence en poussant son voisin sous le métro? Faut-il se distinguer en empoisonnant le café du collègue? Peut-on optimiser sa relation parentale avec son enfant? Comment aider son chien à devenir la meilleure version de lui-même? Quelle est l'odeur de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA? Et celle de l'impôt sur la fortune immobilière? Est-ce que l'impôt sur les sociétés pue? Est-ce que l'évasion fiscale trouverait la sortie en cas d'attentat terroriste? Et est-ce qu'elle dénoncerait un harcèlement sexuel dans le bus?
J'arrive à l'heure. Je sonne 4-5 fois à l'interphone. Rien. Je finis par laisser mon doigt enfoncer sans discontinuer. Il ouvre enfin. Je monte au premier. Je trouve la porte entrebâillée et lui assis dans son fauteuil, télé allumée. Il s'était rendormi. Désolé. Il a les cheveux gras, les yeux luisants, le regard vide. Je le connais comme si je l'avais fait. Il est ivre. Je lui dis « Habille-toi, papa, on y va. Ton sac est prêt ?» Il répond « Non, il me demande de l'aider. » Il dit encore « Je me suis disputée avec mon frère, je supporte pas, tu sais. » Je dis « Oui, papa. » Je regarde à peine autour de moi. Ça me déprime tout ce bordel, je repasserai plus tard pour ranger, faire la vaisselle, vider les cendriers, descendre les bouteilles. Je traverse la chambre dans la pénombre, j'aperçois le lit éventré, papier de bonbons éparpillé sur la table de nuit des médocs, comme d'hab, et un verre de rosé. Jusqu'à la salle de bain, je me concentre pour rien oublier. Trousse de toilette, pince à épiler, rasoir électrique, brosse à dents, peigne, dentifrice, shampoing, savon, c'est bon. Tu veux tes chaussons? Il dit qu'ils sont foutus, qu'il faudrait passer au Franprix. J'irai dans la journée. Je prendrai ses préférés, chaussons de vieille dame, isotonaire, en velours rose avec le nœud. Il s'en fout, c'est confortable et surtout c'est pas cher. Une chemise, 3 slips, un pull, on y va, ils nous attendent. Pour le reste, je viendrai dans la semaine. Il prend sa canne. Quand il commence à tomber, à perdre l'équilibre, il a la soixantaine peut-être, pas si vieux que ça. Dans la rue, chez lui, au supermarché, il tombe, il a besoin d'aide, impossible de se relever. Il fait plein d'examens, ça finit par tomber. Rétrécissement du cervelet. Un truc d'alcoolique, il paraît. Il est content d'avoir enfin un problème physique, un vrai. Il s'est donné du mal pour en arriver là. Il est toujours déçu quand on lui dit que son foie va bien. Il prend sa canne. Il en est fier, il la trouve originale. En plastique vert avec des fleurs, un style un peu bohème, c'est vrai qu'elle est pas mal. Il dit qu'avec elle, il est plus sûr de lui, plus stable. Que ça lui change la vie, qu'en bois ça ferait plus dandy, mais tant pis. Un étage à descendre, je vais à son rythme. Cramponné à la rampe. Il tremble. Une marche, la canne, pied gauche, pied droit. Une marche, la canne, pied gauche, pied droit. J'oscille entre tristesse et exaspération. C'est long. Enfin dehors. On y est presque. 400 mètres en ligne droite à parcourir seulement. À cette vitesse, je dirais 30 minutes. Un peu plus s'il faut passer au tabac ou à la banque. Je lui dis « Tu veux des clopes ?» Il me dit « Non, c'est bon. » Il en a heureusement. 10 minutes de gagné. L'avenue Ray est en pente, on peut se laisser aller. Le vent est dans notre camp, il nous donne de l'élan. En arrière, il se lève. On passe devant la boulangerie, je lui propose une tarte aux framboises pour le goûter. Non, ça ira, il a pas faim, peut-être demain. Il s'agrippe à mon bras comme une meilleure copine. Il tremble encore. Quand j'étais petite, c'était les mains. Maintenant, c'est tout le corps. Il tient. À gauche, sa fille. À droite, sa canne. La plus fidèle, c'est elle. La plus solide. Sur le bitume, son bruit est sourd, presque imperceptible. L'embout en caoutchouc, idéal pour éviter les glissades, atterrit sans énergie. On dirait un pof. À côté, ses sentiaques défoncées sonnent en décalé. Elle claque fort, pied gauche, pied droit. À une lenteur folle, l'harmonie se fait. Ça donne pof, clac, clac, tant. Pof, clac, clac, tant. Dans une mesure à trois temps, le premier est fort et les deux autres sont faibles. Je me souviens de mes cours de solfège. Dans cette valse indolente, la canne discrète est bien l'axe central. 12 minutes, premier croisement. On traverse la rue d'Alésia, j'imagine une canne de combat. On pourrait siéger, mais je préfère éviter, je presse le pas. La canne s'enraye, mon père trébuche, manque de se prendre un bus. On atteint debout la rue de la Santé. Prêt à longer Sainte-Anne et sa muraille sur 300 mètres. Sprint final. Soudain, j'aperçois suspendu au bout de la canne un papier de sneakers glacé. Il me semblait aussi que le pof s'était transformé en schloff. Ça me rappelle que j'ai faim, j'ai pas mangé, lui, il a pas remarqué. Schloff, clac, clac. Schloff, clac, clac. Je suis misophone, ça commence à me stresser. Je vois que deux possibilités. La première, lancer ma jambe droite bien tendue devant lui, atteindre l'autre côté, tenter ainsi de bloquer fermement le dit papier avec le pied en pointe, probabilité de croche-patte élevée. J'abandonne l'idée. Reste la deuxième, accepter la présence de ce corps étranger et parier sur sa persévérance, sa détermination. Après tout, c'est peut-être un signe, un esprit réincarné. Arrivé dans 100 mètres, on ne parle pas. Le papier est toujours là et son bruit synthétique, je crois que je me suis attachée. Il a même réussi à embarquer avec lui une feuille d'automne et un vieux chewing-gum. On nettoie le quartier. Je commence à me dire que si jusqu'au bout, il reste accroché, s'ils passent ensemble la ligne d'arrivée, alors tout ira bien. Cette fois, ce sera la bonne. Je mise tout sur cette idée. Les pensées magiques, parfois, ça fonctionne. On y est. 3 marches à gravir, j'en fais une montagne. 2 portes automatiques. Avec courage, la canne s'élève jusqu'à la première. Marche militaire, on garde le rythme. Malheur, elle perd en vol sa feuille et son chewing-gum. J'arrête de respirer. Par chance, une petite anorexique les accueille aussitôt sous la semelle de sa buffalo. En un éclair, elle se faufile, elle est déjà à l'intérieur. Je souffle. Bien joué. Feuille d'automne, anorexique, chewing-gum sur le podium. Plus que le papier de sneakers glacé et fini cette histoire. 2 marches puis la 3e, ascension terminée. Un bon coup de canne lancé au vent pour le remercier, la porte s'ouvre à nous, coulisse, télescopique. Comme la Pouki, on est dans le sas. Je commence à fredonner. Erreur fatale. Une seconde d'inattention, le sneakers nous a lâchés. On perd pied. Je l'aperçois sur le côté, jambe gauche étirée, je le chope par le talon, position révérence. La 2e porte s'ouvre, lentement je le fais glisser. Surtout, pas de faux mouvements, le temps est en suspens. Je suis hyper concentrée. C'est bon. On a gagné. Cette fois, ce sera le dernier trajet jusqu'à cette clinique psychiatrique. J'aime les pensées magiques et les sneakers glacés.
Il lui claqua la bise. Léon lui fait la bise. Et on arrive. On se salue, on se claque une bise. La joue trop près peut-être ? Léon la joue trop près. Léon la joue pas fine. Ça fait tiquer Émilie. Elle lui rend sa bise. Émilie retourne à la joue. Sous sa joue de la sueur, elle sait que c'était trop près, elle a le seum. C'est compliqué de différencier le désir du souffle, surtout contre une joue. Elle se sert un verre, puis 2, puis 3, et entre le 4 et le 7, elle ne se souvient plus. Émile ne sait pas si elle finira avinée. Émile dit « Plus je suis, je bruyante, plus je bois, plus je suis bruyante, plus je bois, plus je deviens brave et bruyante, plus il boit, moins sa voix grave. » Émile n'est pas une pick-me. Elle n'a pas envie de passer la soirée à regarder des mecs hétéros, des cis-gugus, jouer aux jeux vidéo, jouer aux rappeurs, jouer à celui qui a la plus grosse story. Jouer à qui rigolera le plus fort et des éclats de tessiture moyenne, aromatisés, purple cush, partout, contre les canapés, contre la table basse, contre les fenêtres, pas assez ouvertes. Léon l'agace et Léon le nie. Émilie lèche les petits grains de sel sur les bretzels. Elle remet les bretzels dans le petit bol. C'est son petit geste de résistance. Léon attend devant la porte. L'attente de la porte est derrière. Émilie scrute la mosaïque vert moche et les motifs du rouleau de papier qui pend. Et puis, Émilie lit. Émile lit toutes les tranches des livres dans le porte-livre, une à une. Et Léonie sautille devant la porte. Émile lit, exercice de style, Raymond Queneau. Le nouveau dico de Lolo, Laurent Baffy. Mémoire de guerre, De Gaulle. Et Léon toujours. Léonie, sous l'envie d'uriner, s'accroupit. Émilie essuie bien la lunette et défait le loquet. Et Léon bondit. Émilie dit « Oups, sorry, j'ai pas tir !» Mais c'est déjà enfui. en criant « Pas de souci !» Émilie se demande si Léon pisse assis. Émilie se demande qui sont ses amis ici. Léon, elle nie. Elle se rapproche du chat et la caresse avec tendresse. « C'est une chatte, on lui dit. » Émilie caresse la chatte avec tendresse et Léon ne nie pas. Et veut aussi. Elle plisse les yeux de plaisir et dans ses doigts, le cou, elle sent que ça vibre, imperceptible.
Tu me reviens comme une odeur de pisse qui surgit sous un pont sans prévenir. Il y avait un arrière-coup de réconfort, là, juste dans le gras de ton cou. Une place absolument impeccable pour y fourrer son nez et l'épaisseur d'une lèvre collée contre celle d'en bas pour qu'elle se détache de temps à autre et s'empare d'un bout de ta peau pour réussir un baiser. C'était une odeur différente, forte et dégueulasse, sans pareil qu'on s'y serait cru à la maison. Dans ton cou, ça sentait la garçonnière. Un endroit frit dans l'huile de tes gestes gras, les jours où tu ne te douchais plus et que tu te touchais trop. Un truc détonnant, comme un coup de fusil dans les narines et qui décharge de l'héroïne. Je comprenais ta sueur, ton haleine aux saveurs mélangées des cigarettes et du matin. Les effluves de ton fion que je décorais de ma langue ces soirs où je n'avais que faire de savoir si tu l'avais lustré au préalable. C'était le tien, c'était ta merde et elle t'allait bien. Même empêtrée dedans, t'avais bon goût. Vraiment, j'y revenais et je me tartinais les mains de tes microbes. Il y avait peut-être un flacon qui traînait dans un coin, entre les rasoirs et le dentifrice scié en deux pour écurer ce qu'il reste. Une fiole bon marché à l'eau de mer, sponsorisée par un type cramé par la cam et retouché sur l'affiche. Un parfum passé de 3 ans, mais qui faisait encore le travail pour les occasions. Et j'en étais une. Une décolorée fourchue, engraissée dans les plus beaux endroits du pays de son corps. Un lardon fumé, sans poitrine, prête pour l'abattoir. Le carrelage était recouvert par tes poils et du sang séché, car tu te ratais. Souvent, un coup de pointe en fer dans l'orifice et voilà que ça gicle du rouge. T'as défoncé ton tapis comme ça, c'est dommage. Tu le piétinais sans gêne, à croire que c'était une habitude. Il a enduré l'eau, la pisse et parfois ton sperme, duquel je me déchargeais comme d'un suppôt fondu. Ces rares soirs de coucherie, en ratant la cuvette. Fruit blanc et gluant de ton amour, je tuais nos enfants sans me sentir coupable et je tirais la chasse, comme ça. Puis je revenais ne pas te dire je t'aime, puisque ça ne me traversait jamais l'esprit. Je revenais m'abreuver de tout ça, de tout toi, étendu sur le matelas souillé, un orteil pendu dans le vide, comme un cadavre frôlant le sol, je me glissais, vidé de ton jus, contre ton ventre grignoté par ces nombreuses journées, sans repas, et gonflé par le vin le moins cher de l'inter du coin. Un Cahors. Tu me le recommandais. Après les alcools, après l'amour que l'on avait raté car tu ne bandais pas, tu restais accroupi, prostré contre le mur, à moitié nu, à te frapper le visage, vociférant des insultes que tu proférais à ton encontre. Tu te redorais la face dans un silence indécent en chuchotant assez fort pour que je sois témoin de la détresse qui t'allait déjà comme un gant. Je t'écoutais, les yeux clos, tout en déposant sur mon front le premier voile transparent qui allait m'aveugler de la violence qui préparait son brasier. J'accueillais sans crainte tes cris d'acharné par mes bras encore vierges avant que tu ne les fardes de couleurs froides. Et je dessinais, comme le ferait un enfant avec son crayon le long de ses doigts, des contours amoureux légèrement trop fins pour t'arracher à toi-même. Ton front soutenu par tes poings, tu étais anéanti par ta bite molle qui me tirait la révérence, le gland fané par les tentatives vivaces de fourrer la dinde, écrabouillé contre ma chair qui s'asséchait au rythme de l'échec. Et j'aimais alors déjà moins cette vague que faisait ta joue sans larmes, marquée par les crevasses, grattée par tes ongles noirs et mal coupés, et hontée de n'avoir pas su me décoller un orgasme que de toute façon j'aurais faim. Au premier soleil, la gueule dans le bois, n'avait rien à se dire. J'avais perçu le profil de ta part sombre, et pour chasser mes doutes insistants, tu faisais le pitre.
Tu te prenais pour un acteur mort, ce genre de mec devenu mythe qui avait eu la chance de clamser avant qu'il ne se fasse accuser d'un crime. Ce genre de décédé trop tôt, de génie sans bavure. Alors le visage déformé par un sourcil en virgule, tu agitais vigoureusement l'un de tes bras secs en récitant ces hommes qui violent peinard. On n'est pas bien là? Paisible, à la fraîche, détendu du gland et on bandera quand on aura envie de bander. Et comme tu avais le sens du détail, tu poussais l'imitation jusqu'au bout. Mais tu vois, la différence avec ton idole, c'est que lui, il a catapulté son crâne dans le capot d'une voiture pour faire taire les voix. Alors que toi, c'est le mien que t'as écrasé contre la ferraille sous un pont qui sentait fort, un soir où t'avais les yeux jaunes.
Elle lui tendait sa main, petite main qu'il aimait serrer. Sous la pulpe de ses jeunes doigts charnus, Abel caressait une seconde sa peau désormais si fine et lâche qu'elle dansait sur ses petits os cassants. Irène était la seule vieille dame à qui il serrait la main. Abel croyait encore que ce que préféraient les vieilles dames, c'était de déposer des baisers sur les joues. Ce matin-là, elle portait au creux de son coude une brassée disparate. Tulipes fatiguées, marguerites édentées, renoncules assoupies, bleuets scalpés, pivoines dévêtues. Au fil des années, les vendeuses s'étaient faites à sa présence. Irène était de celles qui ne quémandaient pas en s'excusant. Elle leur demandait, directe, abrupte, de lui confier toutes ces fleurs qui ne regagneraient pas leur camionnette, qui seraient jetées à terre, rassemblées par les balayeurs, qui les mêleraient en un tas aux fans de carottes, à la glace fondue sentant le poisson, et aux cartons redevenus pâte boueuse. Les fleuristes, la première fois, s'attendaient à ce qu'elle les remercie avec effusion. Mais Irène hochait la tête et tournait les talons, emportant sa ruine de bouquets. Remercier de quoi ? Au début du printemps, elle passait parfois la grille du cimetière avec des jonquilles par dizaines qui explosaient jaunes dans son seau en plastique noir. Certains matins, si vous étiez pris dans les embouteillages du boulevard périphérique, vous pouviez l'observer les cueillir sur le talus pentu de l'autre côté de la glissière de sécurité. D'autres l'imitaient, faisaient des radias, avant de regagner le centre de la ville pour vendre les jonquilles à d'autres fauchés sur le bord d'un trottoir. On ne dit plus le carré des indigents, Irène, on l'appelle désormais le terrain commun. 30 sépultures réparties selon un plan orthogonal, recouvertes de dalles identiques en béton sur lesquelles aucune inscription n'est gravée. Il était autorisé d'y poser quelque chose, une petite plaque, une gerbe, mais rien ne devait durer, car ces tombes, aucun corps ne les occupait très longtemps. Y séjournaient ceux que personne n'était venu réclamer et ceux pour qui personne n'avait voulu payer. Ils reposaient 5 ans dans la sépulture anonyme avant d'être exhumés, brûlés et dispersés sur une pelouse moussue le long du mur ouest de l'enceinte. 5 ans pour être sûr que le corps n'était plus ni chair ni jus. 5 ans pour être sûr que personne n'allait se réveiller un matin en se rendant compte qu'un de ces corps oubliés avait un jour compté dans sa vie. Abel était toujours étonné que 30 sépultures suffisent. Ce n'était bien sûr pas l'unique cimetière, mais dans une si grande ville, mourir seul ne devait pas être rare. Parmi les millions d'êtres qui la peuplaient, beaucoup devaient sortir des radars, disparaître aux yeux de tous, sans parents, sans enfants, sans sœurs, sans frères, sans amis, parfois sans même un nom à inscrire sur une plaque. Irène, elle, se souvenait de qui avait été inhumé où et quand. Lorsque les services de la ville échouaient à retrouver leur identité, elle les nommait selon le saint du jour. Ainsi, aux côtés d'Alain Tanier, de Jeanne Molnard, de Mohamed El-Fassi, reposaient Agathe de Catane, Modeste, Pélagie la Pénitente, Bernadette de Lourdes, Achille de Larissa, Jean d'Avila. Désossant peu à peu sa brassée, elle offrait 3 tulipes à Léonard de Noblat, déposait sur la dalle d'Angèle Mérissy dévote 2 roses fanées et sur celle de Françoise Lévesque un lys blanc dont les pétales commençaient à se recroqueviller sur eux-mêmes. Abel lui avait demandé un jour pourquoi elle faisait ça, et surprise, elle lui avait répondu que si elle ne le faisait pas, personne ne le ferait.